Bonjour à toutes et à toutes, Boker Tov. Alors voilà, je me suis dit qu'on allait lancer une nouvelle série dans notre projet d'études journalières, avec chaque jour des nouveaux thèmes. Eh bien, je me suis dit qu'en fait, on allait lancer une petite série sympathique. Nous avons déjà le dimanche avec des thèmes aléatoires, le lundi la Tfila, le mardi, en général, on fait une année de Yoma, les choses qui sont en rapport avec l'époque, le mercredi, Parashat de Shavua, et donc le jeudi, alors soit on intervertira avec le mardi, eh bien, je voudrais qu'on lance notre étude sur Pirkei Avot. Voilà, Maseret Avot, un des livres fondamentaux de l'étude de la Torah. Et donc, voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans cette nouvelle série sur Maseret Avot. Alors, Maseret Avot, Pirkei Avot, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la Mishnah numéro 1, eh bien, il faut donner une petite introduction. À quoi sert le traité de Avot? Nous dira le Talmud qu'il y a trois façons d'être chassid. Trois façons d'être chassid. Alors, c'est quoi chassid? Eh bien, dans le langage talmudique, chassid, c'est au-delà du tzaddik, c'est-à-dire... Tzadik, c'est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Chassid, c'est encore en plus. Et donc, nous dira le Talmud, qu'est-ce que l'homme doit faire et doit bien comprendre, bien savoir, bien étudier s'il veut devenir chassid? Eh bien, il a trois avis. Le premier avis nous dit qu'il doit être parfait dans tout ce qui est marqué dans le traité de Brachot. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui lui permettra d'être chassid envers sa relation avec Dieu. Notre avis nous dit qu'il doit faire tout ce qui est marqué dans Milé de Nézikin. C'est-à-dire qu'il doit être pro dans tout ce qui est marqué dans le traité de Nézikin, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. En d'autres termes, il doit être maître dans tout ce qui est du domaine des rapports entre l'homme et son prochain. Mais le troisième avis est celui qui nous intéresse, Milé de Avot. Il doit faire ce qui est marqué dans Maseret Avot. Et donc, si le premier avis nous parle de la relation avec Dieu, le deuxième avis nous parle de la relation avec l'autre, eh bien, Maseret Avot nous parle de ta relation avec toi-même. Le rôle de Maseret Avot est de faire de nous des gens bien. En fait, si vous voulez, Maseret Avot est un guide pour pouvoir véritablement étudier la Torah. Pour pouvoir être, comme on dit en arabe, un mensch. C'est-à-dire pour pouvoir être un mec bien. La vérité, c'est que Maseret Avot ne devrait pas faire partie de la Mishnah. C'est, j'ai envie de dire, un petit peu trivial de le mettre dans la Mishnah. Normalement, on doit tous être déjà des experts dans Maseret Avot avant même de commencer à étudier quoi que ce soit d'autre. Ou pas, puisque nous dira le Talmud que Ben Chamesh la Mikra ou Ben Esser la Mishnah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'à 5 ans, il faut commencer à étudier ce qui est marqué dans la Torah, écrite, et à 10 ans, commencer à s'imprégner de ce que la Mishnah veut nous dire. De quoi parlons-nous, Rabotai? Eh bien, il faut mettre les choses au clair. La Torah ne peut pas être étudiée ou être enseignée dans un contexte de détérioration et de dépravation morale. Être quelqu'un de bien est une condition sine qua non pour commencer notre étude de la Torah. Si bien que, alors c'est une Mishnah qu'on retrouvera dans Maseret Avot, que Derech Eretz Kadma la Torah, que être un mec bien, ça passe avant la Torah. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire être un mec bien, ça passe avant la Torah? Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Vous le savez, qu'en penses-tu? J'en pense que c'est faux. Je pense que de dire que Maseret Avot a été donné d'abord au Dayanim et ensuite à Klal Israël, c'est faux pour la simple raison que c'est marqué dans la Mishnah. Ça fait partie du corpus que Rabbi Houda Hanassi a décidé d'écrire pour le Klal Israël. Donc, ce n'est pas une question de Dayanim ou pas Dayanim. Ce qui est important de comprendre, c'est que à la base, avant de me lancer dans l'étude de la Torah à proprement parler, eh bien, il faut que j'ai une tête bien remplie de comment être quelqu'un de bien. Vous savez, d'après le judaïsme, je suis tenu de faire la Torah qu'à partir du moment où je fais bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est le moment où, bah, ça y est, je suis fils de la mitzvah, donc je me dois de respecter la Torah. Bat mitzvah, ça marche également. Mais ça, c'est à 12-13 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe avant? D'après la Torah, avant la bar ou bat mitzvah, je ne suis pas tenu, halakhiquement parlant, de faire la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on attend de moi pendant toute cette période-là? Eh bien, on attend de moi de développer une identité morale. Pourquoi la bar et bat mitzvah, c'est à 13 ans ou 12 ans? Eh bien, pour une raison très simple. Non, ce n'est pas qu'à 12-13 ans, l'enfant, il est adulte, il peut comprendre des choses. On comprend très bien à 10 ans, il n'y a pas de problème. Non. Tout simplement qu'à 12-13 ans, c'est le moment de la puberté. C'est-à-dire le moment où, physiologiquement parlant, de manière moyenne, évidemment, l'homme peut commencer à donner la vie. À partir du moment où il peut commencer à donner la vie, c'est qu'on lui sent une responsabilité par rapport à cette vie. En Europe, en France par exemple, la majorité c'est 18 ans. Pourquoi ? Bien avant Valéry Giscard d'Estaing, c'est parce que Napoléon avait mis la majorité à 18 ans pour pouvoir incorporer plus de jeunes dans la grande armée française. En d'autres termes, en France, la majorité c'est quand on te donne le droit de tuer, de prendre la vie. Alors que dans le judaïsme, la majorité, c'est lorsqu'on te donne le droit et le devoir de donner la vie et d'être responsable de la vie. En d'autres termes, maintenant tu peux donner la vie, eh bien il est temps que cette vie, elle te serve pour te lier à Dieu. Mais pendant toute la période jusqu'à là, eh bien si on ne t'apprend pas la Torah à proprement parler, eh bien on va t'apprendre à être un mec bien qui va savoir utiliser la Torah et la vie. C'est pour ça que lorsqu'on te dit qu'à 5 ans, on commence à étudier le Tanakh, ça veut dire qu'à 5 ans, tu remplis l'enfant des histoires du Tanakh. Parce que tu veux l'imprégner de grands personnages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas des halakhot que tu leur enseignes, c'est comment se sont comportés les grands personnages. Ensuite, à 10 ans, tu commences à lui enseigner la Mishnah. Pas forcément la Mishnah Oktzin. Tu commences à lui enseigner Maseret Avot. Tu commences à lui enseigner comment est-ce qu'on se comporte bien. Après cela, eh bien, tu vas pouvoir commencer à 13 ans à lui enseigner la halakha. Très joli. Bikitsour, voilà ce qui se passe dans la Maseret Avot. On commence à t'apprendre à être un mec bien. Et être un mec bien, c'est d'abord et avant tout envers soi-même. Parce que si tu ne te comportes pas bien envers toi-même, comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser Ve'ahavta le'reacha kamocha si ton kamocha, il est nul? Donc, il est évident que d'abord et avant tout, tu dois avoir une haute estime de toi et tu auras une haute estime de toi si tu comprends que tu es un mec bien. Donc, d'abord et avant tout, il faut s'occuper de soi, corriger ses midot, et c'est ça le rôle de Maseret Avot. C'est la raison pour laquelle le Rambam écrira comme introduction à Maseret Avot Shmoné Prakim, le traité des 8 chapitres, où dans lequel le Rambam nous explique comment, eh bien, se positionner dans son âme, dans son nefesh, pour pouvoir commencer à apprendre à être un mec bien. Et par exemple, il dira dans le 4e chapitre, le corps de son livre, que eh bien, l'homme il doit être toujours Beshvil Azav, dans le milieu. Il ne doit jamais être à l'extrême de là ou à l'extrême de là. En d'autres termes, Maseret Avot, eh bien, c'est le livre qui va me permettre de tout simplement pouvoir être apte à recevoir la Torah. C'est tout un programme, donc. C'est tout un programme, mais il est Beseder Gamour. Maintenant, après cette introduction de 10 minutes, j'aimerais bien vous dire, alors voilà, venez, on commence. On commence la première Mishnah. Mais on peut pas. Pourquoi on peut pas? Eh bien, parce que la tradition juive, qui est beaucoup, enfin pas moins importante du tout que le texte lui-même, la tradition juive, eh bien, a décidé qu'avant chaque étude de chapitre de Maseret Avot, eh bien, on ne rentrera pas directement dans la Mishnah qui ouvre ce chapitre, mais on commencera et on précédera chaque étude de Maseret Avot par une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui est marquée dans le traité de Sanhedrin. Et il semblerait que la tradition d'Israël a dit que tu, sans ça, tu ne rentres pas dans Maseret Avot. C'est quoi cette Mishnah? Eh bien, c'est une Mishnah que vous connaissez qui nous dit « Kol Israël yesh lahem chelek leolam abba ». Quel rapport a priori? Quel rapport a priori entre cela et cela? Cette Mishnah dans Maseret Sanhedrin, eh bien, elle est très très compliquée. Parce qu'on nous dit « Kol Israël yesh lahem chelek leolam abba ». Ok, tout Israël a part au monde à venir, j'entends. Enfin, essayer de comprendre un petit peu tout ça, mais j'entends. Seulement, elle dit « Shene Emar », d'où j'apprends que « Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Abba »« Shene Emar »« Ve'amer Kulam Tzadikim Leolam Yirshu Aret » C'est-à-dire, comment tu sais que tout le monde a part au Olam Abba? C'est parce qu'on va hériter de la terre. Mais ça ne marche pas. Olam Abba, ce n'est pas Olam Azeh. Le fait qu'on hérite de la terre... ça nous fait référence à Olam Hazeh. Donc pourquoi me dire que puisqu'il y a tout le monde qui va hériter du Olam Hazeh, alors tout le monde à part au monde futur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire que Kol Israël et Shlaim Chelek Leolam Abba? Et si jamais les gens ne le méritent pas, pourquoi est-ce qu'ils auraient part au monde à venir? Rodaï, pour comprendre cette Mishnah, eh bien, il faut tout simplement la remettre dans son contexte. Son contexte, donc dans le Perek Chelek de Maseret Sanhedrin, nous parle de l'idéal collectif du peuple juif. À ce moment-là, eh bien, tu comprends que nous savons, d'après la tradition juive, qu'il y a Olam Hazeh ve Olam Abba. Olam Hazeh, on comprend très bien ce que c'est. Olam Abba, on ne comprend pas très bien ce que c'est. Mais il semblerait que ça soit en opposition ou en différence avec Olam Hazeh. Am Israël, d'après ce qu'on sait de lui, semble être un tout petit peu plus attiré par le Olam Abba que par le Olam Hazeh. C'est ce qu'on retrouvera par exemple à la naissance, avant la naissance de Yaakov et Esav. Dans la parasha Toldot, on nous parle donc de Yaakov et d'Esav, et on nous dit la chose suivante. On nous dit que les enfants se battaient dans le ventre de leur mère. Et Rachid nous dira qu'ils se disputaient pour l'héritage des deux mondes. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que Esav voulait Olam Hazeh, que Yaakov voulait Olam Abba. Seulement, si c'est le cas, ils n'ont pas besoin de se disputer, puisque chacun veut autre chose. Donc c'est très bien. Lui, il aura ça, lui, il aura ça, Kol Shalom en Israël. En fait, non. Les deux veulent les deux. C'est juste que Yaakov a une prédisposition pour Olam Abba et Esav a une prédisposition pour Olam Hazeh. Mais les deux veulent les deux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on te dit Kol Israël, Eshtem, Chelek, Leolam, eh bien, c'est une prise de position générale. Kol Israël Eshlem Bemet Chelek Leolam Abba. On n'a rien fait. C'est vrai, on n'a rien fait pour ça. C'est-à-dire que chez nous, le Olam Abba, c'est built-in. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour véritablement réaliser ce Olam Abba qui est built-in? C'est Sheneemar Ve'amer Kulam Tzadikim Leolam Yirshu Aretz. C'est-à-dire, que veut dire le mot Olam Abba? Est-ce que Olam Abba veut dire le monde différent de ce monde-ci? Olam Abba, ça veut dire le monde qui vient. C'est-à-dire, il n'est pas fondamentalement différent de ici. L'enseignement de cette Mishnah, c'est de nous expliquer que c'est en utilisant ce monde-ci que tu arriveras à créer Olam Abba. Quand le Ramchal nous dit dans le Messilat Yesharim, que Olam Hazeh domé le prosdor, ve Olam Abba domé le traklin, que Olam Hazeh ressemble à un couloir et le Olam Abba ressemble au salon, eh bien on ne te dit pas Olam Hazeh ressemble à une maison Et Olam Haba ressemble à une autre maison, genre un truc différent. Ce sont deux parties de la même maison. C'est juste à moi de couper les murs, de casser les murs pour qu'en fait il n'y ait plus véritablement de distanciation et de différenciation entre Olam Haba et Olam Hazé. Le Olam Haba, c'est le monde qui vient. Et qui vient où? Ici, dans ce monde-ci. C'est à moi de transformer Olam Hazé en Olam Haba. Pour cela, eh bien, il faut que j'hérite du Olam Hazé. Car si je vis complètement dans une vie métaphysique, complètement détachée de ce monde, eh bien, à Olam Haba ou Loba. À Olam Haba ou Loba, où il reste Haba, Haba, Haba. C'est terrible. La volonté de dire que pour arriver au Olam Haba, c'est le Olam Hazé qui prime, eh bien, ça met toutes les choses en perspective, puisque ça nous fait prendre conscience que notre travail fondamental, Zeppo. Un, parce que là-bas, de toute façon, je vais y aller. Et deux, eh bien, parce que pour y accéder, il faut que je passe par ici. Et c'est pour ça que ici, je dois apprendre à être quelqu'un de bien. Et c'est la raison donc pour laquelle je commence ma Maseret Avot en me parlant de ce qui se passe ici, de comment je me comporte ici. Maintenant, ceci étant dit, quand on regarde un tout petit peu plus loin dans la Mishnah, on te dit que l'Israël est même prêt à l'Olam Haba. Sauf que juste après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ve'eluem she'en lahem chelek le'olam haba. Tu viens de me dire que tout le monde avait part au Olam Haba. Et juste après, on me dit, non, il y a une petite liste de gens qui n'ont pas part au Olam Haba. Omer en Torah min ha-shamayim, ve'omer en Tirkat ha-metim min ha-tzorah, ve'apikoros. C'est toute une liste de gens qui n'ont pas chelek le'olam haba. Mais comment est-ce qu'on arrange le début de la Mishnah avec la fin de la Mishnah? C'est vrai, ça se contredit. Kol Israël est chelek l'Olam Haba, ve'eluhem she'en lahem chelek l'Olam Haba. Et ne venez pas dire que ça veut dire tout le monde à part, sauf cela. Il n'y a pas marqué sauf. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la Harizal nous explique tout simplement que ça veut dire que besofo shel davar, kol Israël est chelek l'Olam Haba, afilu mi she'en lo chelek l'Olam Haba. Ce qui veut dire, au final, tout le monde a part au monde à venir, même ceux qui n'y ont pas part. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le à Rizal, t'inquiète pas, Dieu il va pas abandonner personne. Et donc, même si là maintenant tu mérites pas, et tu dois passer par des souffrances, par Ge'inam, par Gilgulim, l'homme est chané. Au final, Yelecha Chelek Le'olam Haba. Tu peux faire ce que tu veux, ça marchera pas. Tu auras part au monde à venir, que tu le veuilles ou pas. En d'autres termes, dit le Gaon de Vilna, c'est la différence entre la neshama du juif et la neshama du non-juif. Les deux peuvent totalement se retrouver au Olam Haba sans aucun problème. La différence, c'est que le juif, eh ben, il ira quoi qu'il arrive, ça, même si ça doit passer par beaucoup, beaucoup de souffrances, mais il y arrivera. Le non-juif, eh bien, il y arrivera hein, s'il fait en sorte d'y arriver. Pourquoi? Eh bien parce que Am Israël, Betivo, naturellement, il est attaché au Olam Haba, comme on a dit avec Yaakov, alors que Umot HaOlam, eh bien elle s'appelle Umot HaOlam, elle s'appelle les nations du monde, ce qui veut dire qu'elles sont naturellement attachées à ce monde. Mais l'inverse est vrai également. Donc ça veut dire que Olam, Umot HaOlam, ils ont leur part bah, Olam Hazé, quoi qu'il arrive. En Israël, c'est très dur pour lui de réussir Baolam Hazé. Quand on y réfléchit, il n'y a eu que trois périodes où nous avons une réussite Baolam Hazé. À l'époque de David et Salomon, à l'époque du début des Hashmonaïm, et à notre époque, où nous avons une réussite en tant que peuple juif Baolam Hazé. Vous comprenez bien ici qu'on ne parle pas de l'individu, on parle du clan Israël. Et donc, eh bien, on est en train de nous dire, voilà, monsieur non-juif qui est attaché de manière naturelle au Olam Hazé, lui, il a part au Olam Hazé quoi qu'il arrive. Olam Haba, boss. Am Israël, qui lui est attaché naturellement au Olam Haba, eh bien, il aura beaucoup plus de difficultés à hériter du Olam Hazé. Et c'est donc la raison pour laquelle, eh bien, on commence en te disant, bah, tout simplement, Kol Israël Eshlem Chelek L'Olam Haba. Sheneemar Ve'amer Kulam Tzadikim Le'olam Yireshu Aretz. C'est en prenant possession de Olam Hazé que tu arriveras à te dévoiler bah, Olam Haba. Voilà ce que la tradition d'Israël a décidé de rajouter à la Mishnah de Pirkei Avot avant de commencer. Pour que tu saches vers où tu vas. L'objectif est que tu arrives à Olam Haba. Donc, eh bien, on va t'apprendre comment utiliser Olam Hazé. Mais la tradition ne s'arrête pas là, puisque la tradition d'Israël a décidé également de rajouter une Mishnah à la fin de chaque étude, c'est-à-dire de chaque chapitre de Maseret Avot. Eh bien, on a décidé de ne pas terminer par le dernier Mishnah, mais de rajouter, là aussi, une autre Mishnah, qui, elle, ne vient pas de Maseret Avot, qui ne vient pas non plus de Maseret Sanhedrin, qui vient de Maseret Makot, et qui nous dit, c'est une Mishnah que vous connaissez, je vous demanderai de ne pas dire Kaddish, qui dit « Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach irba lahem Torah o mitzvot, sheneemar chafetz Hashem leman tzidko, Yagdil Torah veyadir. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on termine par cette Mishnah-là? Eh bien, on termine par cette Mishnah-là pour une réponse, une raison très simple. Maseret Avot nous apprend à nous corriger. Mais finalement, à quoi bon me corriger? Puisque de toute façon, je risque fort de fauter. C'est bien beau de corriger mes midot, mais si c'est au final pour quand même fauter, à quoi ça sert de prendre perdre tout ce temps-là? Et pourquoi je dis que je vais fauter? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 613 mitzvot. 613 mitzvot, c'est énorme. 613 mitzvot, en fait, c'est 613 options pour fauter. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, ça. Hein. C'est Shaoul. Oui, tu sais, Shaoul de Tarse. Il a pris un autre nom. Il est devenu Polo. Paul. Vous savez, le fondateur réel du christianisme. Eh bien, Paul va dire la chose suivante. Que Dieu nous déteste. Il haït le peuple juif. Et donc, comme il les déteste, il leur a donné 613 mitzvot. Puisque, en tzadik ba'aret, sacharia asetov velo yecheta, puisqu'il est impossible de ne pas fauter au final, eh bien, 613 mitzvot deviennent 613 options de faute. Et donc, forcément, on va tomber. Et donc, eh bien, c'est la preuve que toutes les mitzvot, c'est, eh bien, voilà la preuve que Dieu ne nous aime pas et veut nous voir tomber. Bon, tu comprends qu'il a dit ça parce qu'il voulait vendre le christianisme à Rome et tu pouvais pas leur vendre avec 613 mitzvot, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Eh bien, je vais vous donner un grand chidouche. Je parle pas de moi, mais le chidouche, il faut en être conscient. Non, on n'est pas obligé de fauter. Enfin, chidouche gadol, mais non, on n'est pas obligé de fauter. Point. Le Talmud nous donnera un exemple de quatre personnages qui n'ont jamais fauté. Alors certes, quatre, c'est pas beaucoup, surtout d'histoire humaine, mais le fait qu'on puisse nous en donner ne serait-ce qu'un, c'est la preuve que c'est faisable. Alors c'est qui ces quatre? Le premier, on nous dit, c'est Binyamin ben Yaakov. Ensuite, on nous dit Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et Kilav, le fils de David. Quatre personnes qui n'ont jamais fauté. Eh bien, il est fait. Et donc, ben, si c'est possible pour eux, c'est possible pour nous. Et donc, non, les mitzvot ne sont pas des preuves du dégoût de Dieu pour nous, mais au contraire. Ratsa Akadosh Baruch Hu, les akot est Israël. Nous donner des mérites, car chaque mitzvah est, un mérite en plus. Et quand on regarde la correspondance dans le verset, on se rendra compte que Ratsa Kadosh Baruch Hu, ça devient Chafetz Hashem. On dit Sheneemar Chafetz Hashem. Donc, à Ratson, c'est quelque chose de très abstrait. Chafetz, c'est inscrit dans ce monde. Ratsa Kadosh Baruch Hu. Au niveau de la Mishnah, on nous parle de manière abstraite, intellectuelle. Dieu a voulu. Dans le texte de la Torah, on nous dit que Dieu ou Chofetz, Milachon Chofetz, ça prend ses, cette volonté devient concrète. Ratsa Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est une notion, là aussi, purement philosophique. Le transcendant qui est également l'émanant. Dans le texte de la Torah, il est marqué Chofetz Hashem. Yudke Vavke. Les Akot et Israël. Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. Comment est-ce qu'on traduit les Akot et Israël? Donner des mérites à Israël en termes toraniques. Il y a marqué les Ma'an Tzidko. Les Ma'an Tzidko. Pour la justice de Dieu. Quand Am Israël réalise sa Torah, eh bien, ça met en surbrillance la justice du Créateur. Donc, Ratsa Akadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Le Fichach, Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Chafetz Hashem Leman Tzidko, Yagdil Torah. Mais il y a pas, il y a Torah ou Mitzvot. Dans le texte de la Torah, il est marqué Yagdil juste Torah. Ken, parce que dans la Torah, Torah et Mitzvot, c'est deux choses qui sont liées. Ce n'est que Bagalout qu'on peut étudier la Torah détachée de la pratique des Mitzvot. Puisque une grande partie de la Torah ne peut pas être traduite en mitzvot, puisqu'on n'est plus en Eretz Israël. Mais dans le texte de la Torah, c'est uni. Donc, Yagdil Torah, Ratsa Kadosh Baruch Hu, Zakot Israël, le Firach, Irba Lahem Torah, mitzvot, Sheneemar, Chafetz Hashem Leman Tzidko, Yagdil Torah, Veyadir. Mazel Adir est à Torah. Eh bien, c'est tout simplement lorsque Am Israël remplit son rôle dans le monde. À ce moment-là, ça donne un écho à dire énorme à la volonté du Créateur qui se réalise dans ce monde. Voilà les deux Mishnayot qui entourent chaque étude de Maseret Avot. La première, donc, pour nous expliquer que la correction des Midot qu'on va étudier dans le livre de Pirkei Avot, eh bien, elle est là pour nous permettre de passer de Olam Hazeh à Olam Haba, c'est-à-dire de faire venir Olam Haba, Po. Et tout ça, ça servira à quoi? Eh bien, ça servira tout simplement à ce qu'au final, eh bien, je puisse remplir mon rôle et dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Voilà le rôle de ma Sechet Avot. Me permettre de faire venir l'idéal dans la réalité pour pouvoir dévoiler à 100% le projet du Créateur lorsqu'il a créé ce monde. En cela, ma Maseret Avot devient le livre qui me permet d'être un partenaire du dévoilement de Dieu. La semaine prochaine, eh bien, on commencera la première Mishnah du chapitre 1. À bientôt!